Il y a une situation presque universelle dans le monde du travail. C'est quelque chose qu'on a tous vu ou peut-être même vécu.
Oui, tout à fait.
En fait, imaginez une personne qui excelle dans son domaine. Elle maîtrise son art à la perfection, vraiment. Et un beau jour, eh bien, en guise de récompense pour son ancienneté, on la promeut à un poste de direction.
La fameuse promotion classique.
C'est ça. Mais soudainement, cette personne ne doit plus gérer des tâches techniques, elle doit gérer des êtres humains.
Et c'est là que les choses se compliquent.
Exactement. C'est une dynamique qui crée des frictions un peu partout. Mais s'il y a un domaine où cette faille managériale est particulièrement, disons, critique, c'est bien l'éducation. Gérer des adultes qui sont eux-mêmes chargés d'éduquer des enfants, c'est un défi absolument colossal.
Je suis entièrement d'accord. C'est un terrain très sensible.
Et c'est précisément ce qui nous amène au sujet de notre émission d'aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'aborder ça avec vous.
Et je suis ravi d'être là pour cette analyse. En effet, c'est un enjeu majeur. L'objectif de notre exploration en profondeur aujourd'hui, c'est de comprendre la problématique de la gestion du système éducatif.
Oui, et on a une excellente base pour ça.
Absolument. Nous allons nous appuyer sur un document de recherche extrêmement riche. Il s'agit d'un article scientifique publié en décembre 2025 dans les annales de la FSHH.
La faculté des sciences humaines et sociales, n'est-ce pas?
C'est bien ça, à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. La recherche a été menée par Chogolou, Kponou et Balogun. Le titre est un peu long, mais très parlant. C'est Style de gestion et leadership scolaire, autodiagnostic pour les directeurs d'école primaire dans les CS Abomey-Calavi.
Un vaste programme.
Vaste, oui. Nous allons synthétiser les découvertes de cette recherche mixte. C'est une étude qui allie des données quantitatives et qualitatives. Et surtout, notre mission est d'explorer comment ces conclusions peuvent être appliquées très concrètement par les leaders scolaires sur le terrain.
Bon, décortiquons tout ça. Commençons par la problématique globale, si vous le voulez bien.
Allez-y.
L'étude met en lumière un contraste vraiment saisissant entre le contexte mondial et la réalité locale. Parce que, bon, à l'échelle mondiale, l'éducation subit des mutations très rapides.
Les nouvelles technologies, par exemple.
Oui, les technologies, les réformes pédagogiques incessantes, les changements sociaux aussi, on s'attend généralement à ce que les directions d'école soient à la pointe du management adaptatif.
Ce qui demande une énorme agilité.
Elle est souvent très différente.
C'est là que le bât blesse, en fait. Dans les circonscriptions scolaires qui ont été étudiées, la nomination au poste de directeur d'école primaire se fait très majoritairement sur la base de l'ancienneté.
Ce qui en soi n'est pas un défaut d'avoir de l'expérience.
Bien sûr que non. Le problème fondamental n'est pas l'âge ou les années passées en classe. C'est le déficit flagrant de formation en management scolaire. On prend d'excellents pédagogues, des professeurs brillants, et on les place à la tête d'un établissement entier sans leur donner les moindres outils pour gérer une équipe.
C'est le grand saut dans le vide. Et inévitablement, cela crée des dommages collatéraux importants. Quand la personne aux commandes n'a pas les clés pour gérer les dynamiques humaines, l'impact se fait ressentir sur l'ensemble du corps professoral.
Et par extension, sur toute l'école.
Exactement. L'étude souligne que cette situation engendre des tensions relationnelles sourdes, des conflits latents au sein des équipes pédagogiques. Il y a d'ailleurs une citation de Charon, datant de 2004, qui est reprise dans le document et qui résume parfaitement cela.
Bien gérer pour mieux éduquer.
Voilà. Bien gérer pour mieux éduquer. C'est tellement logique quand on y pense. Si la salle des professeurs est un environnement toxique ou stressant, comment imaginer que les salles de classe juste à côté soient propices à un apprentissage serein?
Cela soulève une question importante. Dans quelle mesure la posture managériale de ces directeurs prend-elle en compte la dimension psychologique de leurs enseignants?
C'est la grande question.
Oui, car diriger un établissement scolaire, ça ne se résume pas du tout à faire des emplois du temps ou à vérifier si tout le monde est présent à 8 heures.
Ce serait trop facile.
C'est avant tout interagir avec des individus complexes. Des individus qui ont leur propre sensibilité, leur propre réaction émotionnelle face au stress ou à l'autorité.
C'est un aspect qui résonne avec l'expérience de quiconque a déjà évolué dans une entreprise ou une grande organisation.
Tout à fait.
Fichée au mur. Elle repose beaucoup plus sur la capacité du leader à comprendre qui sont vraiment les membres de son équipe. Et c'est vraiment le cœur de cette recherche. D'ailleurs, pour asseoir la crédibilité de leur synthèse, les chercheurs ne se sont pas contentés de théorie. Ils ont utilisé une méthodologie très complète.
Oui, une méthodologie mixte très solide.
Ils ont interrogé 80 directeurs d'écoles primaires, publiques et privées confondues. Et fait intéressant, 62,5% d'entre eux sont des hommes.
C'est une donnée démographique à garder en tête, oui.
Absolument. Mais ils ne se sont pas arrêtés aux chiffres froids. Ils ont aussi mené des études de cas approfondies et surtout organisé un focus group avec 10 enseignants pour avoir le ressenti du terrain.
Cette combinaison est essentielle. Les données quantitatives des 80 directeurs nous donnent une photographie de la situation globale, tandis que les données qualitatives, le focus group, nous expliquent les dynamiques invisibles, les non-dits, qui se jouent dans les couloirs de ces écoles.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons des chiffres sur les styles de gestion. Sur ces 80 directeurs interrogés, comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes en tant que leaders ?
Alors, l'étude révèle une répartition assez équilibrée. Disons, entre trois grands styles principaux. On a d'abord 36,25% des directeurs qui adoptent un style qu'on appelle persuasif.
Persuasif, donc ça veut dire quoi concrètement ?
Ça signifie qu'ils sont fortement orientés vers la tâche à accomplir, mais aussi fortement orientés vers la relation avec l'employé. Ils cherchent à convaincre, à expliquer le bien fondé de leurs décisions pour emporter l'adhésion.
Une faible orientation vers la relation, c'est le management par l'ordre. On donne une consigne, on l'exécute, sans grande place pour la discussion.
Le fameux chef qui décide de tout.
C'est ça. Et enfin, le style participatif recueille 30% des suffrages. Ce style favorise vraiment l'implication de l'équipe dans les prises de décision.
Bon, vu de l'extérieur, pour les personnes qui nous écoutent, on pourrait se dire que ce n'est pas si mal. Il y a une belle proportion de persuasif et de participatif. On est à plus de 66% en combinant les deux.
C'est vrai. L'intention de dialogue est là.
Mais, et c'est un grand mais, il y a un chiffre dans cette étude qui m'a complètement sidéré. C'est sur la délégation. Seulement 2,5% des directeurs affirment utiliser un style délégatif. 2,5%.
C'est un chiffre qui frappe fort, effectivement.
Comment est-il possible, dans une école entière avec des dizaines d'enseignants, de ne déléguer qu'à hauteur de 2,5%?
Ce chiffre est absolument crucial pour comprendre le dysfonctionnement. Le style délégatif, par définition, consiste à confier des responsabilités et à faire confiance à l'autonomie de son équipe. Or, l'étude précise d'ailleurs que 21,3% des directeurs admettent ouvertement avoir une difficulté non négligeable à déléguer.
Ils le savent eux-mêmes en plus.
Oui, et ce pourcentage minuscule de 2,5% traduit une difficulté flagrante, viscérale presque, à lâcher le contrôle. C'est vraiment le symptôme classique du manager non formé. Par peur de mal faire ou par peur de perdre son autorité face à ses anciens collègues, il micro-gère absolument tout.
C'est épuisant. C'est l'équivalent d'un chef d'orchestre qui voudrait jouer de tous les instruments en même temps parce qu'il ne fait pas confiance à ses musiciens.
C'est une excellente métaphore. Le chef d'orchestre finit par s'épuiser et les musiciens se sentent complètement inutiles.
Et cette absence de confiance, ça nous amène directement au grand vide psychologique mis en lumière par l'étude. Un autre chiffre marquant. 61,3% des directeurs déclarent n'avoir jamais été formés à la gestion des personnalités difficiles.
Jamais ?
Près des deux tiers des directeurs dirigent des écoles entières sans aucune base en psychologie du travail. Ça laisse sans voix.
Exactement. Et c'est précisément ce manque de formation qui transforme des situations de gestion ordinaire en véritables crises émotionnelles. Le directeur pense juste donner une instruction, mais en face, c'est perçu comme une attaque. Pour illustrer cela très concrètement, les chercheurs ont soumis trois études de cas pratiques aux enseignants lors du focus group. L'idée était de mesurer l'écart entre l'action du directeur et la perception réelle de l'équipe.
Plongeons dans ces cas, car ils sont très révélateurs. Prenons le premier cas pratique abordé dans l'étude. Imaginez, un directeur impose une répartition des tâches. Par exemple, il décide seul des niveaux de classe attribués ou des emplois du temps, sans aucun échange préalable avec les professeurs.
Une situation très courante.
Très courante. Le résultat du focus group, 80% des enseignants interrogés trouvent cette méthode totalement autoritaire et démotivante.
Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont l'étude croise la gestion avec la psychologie clinique. Les chercheurs ne se sont pas contentés de dire que les professeurs étaient mécontents. Ils relient les réactions des enseignants au fameux tempérament hippocratique et aussi aux 5 blessures de l'âme théorisées par Lise Bourbeau.
Ah oui, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice.
C'est exactement ça. Et ils utilisent également le MBTI en toile de fond, cet indicateur de personnalité très connu.
Faisons une petite pause ici pour clarifier ces concepts pour notre auditoire. Qu'entend-on précisément par tempéraments hippocratiques dans le contexte d'une salle des professeurs modernes? Parce que ça sonne très antique.
Oui, c'est une excellente clarification à apporter. Bien que le terme soit ancien, la classification reste très pertinente en psychologie du travail. Ces tempéraments classent les personnalités en 4 grandes catégories. D'abord, on a le profil colérique.
Donc quelqu'un de fâché?
Non, pas nécessairement en colère. Le terme désigne une personne très affirmée, tourné vers l'action et le leadership, qui a un besoin viscéral d'avoir le contrôle sur son environnement.
D'accord, le moteur de l'équipe, souvent.
Ensuite, le profil sanguin. Ça décrit une personne très sociable, enthousiaste, qui a besoin d'interactions constantes et surtout de reconnaissance sociale.
Le collègue qui met l'ambiance ?
Pragmatique. Cela correspond à un individu calme, très observateur, qui évite les conflits à tout prix et recherche la stabilité avant tout. Et enfin, le profil mélancolique. C'est une personne analytique, souvent perfectionniste, très sensible aux détails et à la structure logique des choses.
D'accord, la grille de lecture est beaucoup plus claire. Si l'on revient à notre premier cas pratique, donc la répartition des tâches imposées de manière autoritaire par le directeur, l'étude précise que cela crispe particulièrement les tempéraments colériques et flegmatiques.
Tout à fait. Et ça s'explique très bien. Pour un profil colérique qui aime être acteur de son environnement et diriger ses propres projets, se voir imposer une tâche sans la moindre consultation, c'est perçu comme une perte de contrôle insupportable.
Ça crée une résistance immédiate.
Directe. Et pour un profil flegmatique qui a besoin d'harmonie et de temps pour s'adapter au changement, cette brutalité directive est vécue comme une véritable agression. Ça le pousse à se replier complètement sur lui-même.
Ce qui nuit tout autant à l'école. Passons au deuxième cas, qui est malheureusement un grand classique dans le monde du travail. La réprimande publique. Un enseignant fait une erreur, un retard par exemple, et le directeur le recadre devant tous ses collègues.
La pire des approches.
Les résultats sont sans appel. 90% des enseignants trouvent cela profondément humiliant.
Et c'est là que l'analyse des chercheurs devient vraiment chirurgicale. Une réprimande publique ne heurte pas tout le monde exactement de la même manière. L'étude montre que cela détruit littéralement l'engagement des profils sanguins et mélancoliques.
Comment ça ?
Eh bien, le sanguin, saviez-vous, carbure à la reconnaissance sociale. Il porte souvent, selon la grille de Lise Bourbeau, la blessure d'abandon ou d'humiliation. Donc il vit cette réprimande non pas comme une correction professionnelle, mais comme une exclusion violente du groupe.
Et pour le mélancolique ?
Le mélancolique est très perfectionniste. Il va intérioriser cette critique publique de manière dramatique. Chez lui, ça réveille une potentielle blessure d'injustice, car il estime que ses efforts constants n'ont pas été pris en compte.
C'est fou comme un seul acte managérial peut faire autant de dégâts invisibles.
Le troisième cas de l'étude concerne ce qu'ils appellent l'innovation imposée, c'est-à-dire un nouveau programme ou une nouvelle méthode pédagogique tombe d'en haut sans aucune consultation de l'équipe éducative.
Encore ce manque de participation. Voilà. Et là, 70% des enseignants ressentent une forte dévalorisation. C'est un peu comme si la direction leur disait « Écoutez, votre expertise de terrain ne vaut rien, appliquez simplement la nouvelle méthode qu'on a décidée pour vous ».
Cette situation spécifique réveille très souvent la blessure de trahison ou de rejet. L'enseignant se sent complètement dépossédé de son art, de son métier. Et c'est là toute la puissance de cette recherche. Elle démontre, preuve à l'appui, qu'une directive managériale n'est jamais, au grand jamais, reçue de façon neutre.
Jamais.
Elle passe toujours, inévitablement, au travers du filtre des blessures émotionnelles et du tempérament psychologique de la personne qui la reçoit.
Et le focus group donne d'ailleurs une dimension très, très humaine à tous ces concepts théoriques. Il y a des citations poignantes recueillies par les chercheurs avec ces 10 enseignants qui valent vraiment la peine d'être mentionnées.
Absolument. Ce sont des témoignages très forts.
Par exemple, il y a un enseignant qui a été identifié comme ayant un profil mélancolique et marqué par la fameuse blessure d'injustice. Il explique, je cite, « Moi, quand on ne m'explique pas le pourquoi, je le vis comme une injustice. »
C'est très clair.
Ce n'est pas un refus de travailler de sa part. C'est un besoin fondamental de sens, d'une logique, qui n'est pas respecté par un management purement directif.
L'étude rapporte également les propos d'un enseignant au profil sanguin, associé, lui, à la blessure d'abandon. Sa déclaration est extrêmement révélatrice du besoin de sécurité affective dans le milieu professionnel.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il affirme « J'ai besoin qu'on me fasse confiance en me rassurant, pas qu'on m'impose des choses comme un enfant. »
Comme un enfant. Le mot est fort.
Très fort. On voit bien ici que le style managérial choisi par le directeur peut soit infantiliser le collaborateur, soit le valoriser. Il n'y a pas d'entre-deux.
Il y a une dernière citation qui m'a particulièrement marquée, celle d'un enseignant flématique portant la blessure de rejet. Il dit simplement « Je ne pipe mot, mais je n'adhère pas non plus quand je sens que c'est arbitraire. »
Le silence qui en dit long.
Mais c'est terrifiant pour un manager de lire ça. C'est le danger absolu. Le directeur, dans son bureau, pourrait croire que son style directif fonctionne à merveille parce qu'il n'y a pas de rébellion ouverte. Personne ne crie dans les couloirs, personne ne claque la porte.
L'illusion du contrôle parfait.
Exactement. Mais en réalité, l'employé s'est complètement désengagé mentalement. C'est l'essence même de ce qu'on appelle aujourd'hui la démission silencieuse.
Cette démission silencieuse est le symptôme clair d'un climat de travail où l'intelligence émotionnelle fait dramatiquement défaut. Le directeur qui navigue à l'aveugle face à ses différents profils crée, sans même s'en rendre compte, de sa part, un environnement totalement stérile.
Et ce constat, bien qu'il soit un peu sombre, nous amène à la troisième grande dimension de notre exploration. Comment renverser la vapeur? Comment appliquer concrètement ces conclusions pour transformer la gestion au sein du système éducatif?
C'est la partie la plus orientée vers l'action de la recherche.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir du management scolaire? Si imposer unilatéralement des règles ne fonctionne visiblement pas, quel est le modèle à suivre?
L'article propose de se tourner vers un concept fondamental de la gestion des ressources humaines, qui est la théorie de Douglas MacGregor. MacGregor a théorisé dans les années 60 l'existence de deux visions managériales diamétralement opposées.
La fameuse théorie X et théorie Y.
Précisément. La théorie X présume que l'être humain a une aversion innée pour le travail, qu'il est fondamentalement paresseux et qu'il doit donc être contraint, contrôlé de près et même menacé de sanctions pour atteindre les objectifs de l'organisation.
C'est une vision très pessimiste de la nature humaine.
Très pessimiste, mais c'est pourtant la justification classique du management directif. Et c'est un modèle qui est encore très présent dans les écoles observées au Bénin, où le directeur se voit comme un surveillant général plutôt qu'un leader.
Et à l'opposé de ce spectre, il y a la théorie Y. Elle part du principe inverse, que l'effort physique et mental au travail est aussi naturel que le jeu ou le repos. La théorie Y postule que les individus peuvent tout à fait s'autodiriger et faire preuve d'une grande créativité si on leur rend simplement l'opportunité.
C'est le cœur de la solution. L'étude conclut de manière catégorique que les directeurs d'école doivent impérativement opérer une transition de cette théorie X vers la théorie Y.
Changer de paradigme, hein ?
Oui. Pour créer un climat positif, il faut partir du principe de base que les enseignants sont motivés et souhaitent s'investir dans la réussite des élèves, à condition bien sûr que le cadre de travail respecte leur intégrité psychologique.
La théorie est séduisante, c'est indéniable. Mais on sait que le passage à la pratique, c'est souvent le véritable obstacle. Un directeur qui écoute ses conclusions et qui n'a eu aucune formation préalable, comment fait-il concrètement demain matin en arrivant dans son école ?
C'est la grande question. Mais l'étude ne laisse heureusement pas ce problème en suspens. Les chercheurs formulent des recommandations très claires pour le système 1.
Par où commencer alors ?
La recommandation principale est certainement la plus urgente est la professionnalisation de la fonction de directeur d'école. Il est impératif de cesser de considérer ce poste comme une simple prolongation honorifique du métier d'enseignant. L'étude préconise d'intégrer massivement la psychologie relationnelle et l'analyse des profils dans la formation continue de ces ressources humaines scolaires.
Et d'ailleurs, les chiffres de l'étude justifient amplement cette nécessité. Souvenez-vous, l'étude a révélé que parmi le personnel géré par ses directeurs, 58,8% présentaient une dominante sanguine.
Presque 60%, c'est énorme.
Et 50% des équipes comportaient des profils fortement colériques. Cela signifie, très pragmatiquement, qu'un directeur fait face tous les jours à une majorité d'enseignants qui sont extravertis, qui sont très énergiques et potentiellement très réactifs si leurs besoins fondamentaux ne sont pas entendus.
Exactement. Et on ne gère pas ce type de dynamique de groupe, explosif par nature, avec de simples mémos affichés froidement dans la salle des professeurs.
Non, ça ne passe pas.
C'est pour cette raison que les chercheurs insistent sur le déploiement de formations très spécifiques. Ils parlent notamment de développer le leadership transformationnel.
C'est-à-dire un leadership qui inspire.
Voilà. Il s'agit d'un style qui vise à inspirer les collaborateurs, à donner du sens à la vision globale de l'école, plutôt que de simplement micro-gérer les petites tâches quotidiennes. Il recommande également, et c'est crucial, des formations à la communication non violente.
Pour apprendre à désamorcer les conflits, j'imagine.
Pour les désamorcer de manière constructive, sans créer ces fameuses blessures d'humiliation ou d'injustice.
Il y a un autre aspect de leurs recommandations qui m'a semblé personnellement particulièrement avant-gardiste. C'est l'intégration des neurosciences dans ces formations managériales.
C'est une approche très moderne, oui.
On sort de la simple intuition relationnelle pour entrer dans le fonctionnement purement biologique des relations humaines. Comprendre comment le cerveau d'un enseignant réagit à une menace sociale, par exemple une réprimande publique qui active l'amygdale, par rapport à une récompense, comme la reconnaissance de son autonomie, cela donne des outils d'une efficacité redoutable à un directeur.
Absolument. Avoir ces clés neuroscientifiques change tout. Mais la formation théorique, même excellente, ne suffit pas. L'étude met aussi le doigt sur une réalité souvent ignorée, l'immense solitude des directeurs d'école dans leurs fonctions.
C'est vrai qu'on est souvent seul au sommet.
Pour y remédier, les chercheurs soulignent la nécessité de créer des espaces de supervision et de co-développement professionnel, entre pairs.
Des groupes de parole pour les directeurs, en quelque sorte ?
C'est exactement l'idée. Des espaces totalement sécurisés où les directeurs peuvent se réunir régulièrement, échanger sur leurs difficultés managériales sans filtre, partager des cas pratiques complexes qu'ils vivent au quotidien.
Et chercher des solutions ensemble.
Exactement. Et ce, sans aucune crainte d'être jugé ou sanctionné par leur propre hiérarchie. Parallèlement à cela, l'étude suggère la mise en place d'outils d'autodiagnostic réguliers. L'objectif profond est de favoriser la réflexivité.
Se regarder agir ensemble.
Oui. Un directeur doit être capable de s'auto-évaluer en permanence, de se demander de manière honnête « Quel style de management suis-je vraiment en train d'utiliser en ce moment ? Est-ce que mon besoin de contrôle ne vient pas entraver l'autonomie de mon équipe ?»
C'est une remise en question saine.
Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, adapter son style de gestion au profil psychologique du collaborateur, ce n'est pas un gadget managérial ou une perte de temps.
Loin de là.
C'est la condition sine qua non pour obtenir l'adhésion collective. Un leader vraiment efficace sait qu'il doit formuler ses retours différemment selon la personne qu'il a physiquement en face de lui.
La personnalisation du management.
Tout à fait. Donner un feedback positif très appuyé public sera par exemple extrêmement motivant pour un profil extraverti et sanguin. Mais attention, la même approche, exactement les mêmes mots, pourrait mettre très mal à l'aise un profil introverti ou flegmatique qui préfère de loin un retour discret en tête-à-tête. Cette flexibilité, c'est le véritable moteur de la performance d'une école.
Aujourd'hui, c'est que la portée de ces conclusions dépasse très largement les grilles des écoles primaires d'Abomey-Calavi.
Oh, c'est universel.
Que l'on travaille dans un hôpital, dans une grande start-up de la tech ou dans l'administration publique, les dynamiques humaines restent profondément les mêmes. Prendre conscience que nos collègues ou nos propres employés ne réagissent pas toujours de manière purement rationnelle à une directive.
Nous sommes des êtres d'émotion avant tout.
C'est ça.
Ils agissent parfois à travers le prisme de leurs propres blessures émotionnelles.
La peur du rejet, le sentiment d'injustice, la crainte sourde de l'humiliation. Comprendre cela, ça change diamétralement notre rapport aux autres.
Ça développe l'empathie.
Et cela permet surtout de remplacer la frustration immédiate face à un refus par de la compréhension et de l'ajustement.
En guise de synthèse de cette analyse si riche, l'idée force de l'article est que le leadership ne consiste pas à choisir un camp définitif.
Ce n'est pas blanc ou noir.
Non. Il ne s'agit pas de décréter que l'on est un manager strictement persuasif pour la vie ou exclusivement directif. Le véritable leadership réside dans cette fameuse flexibilité psychologique.
Les directeurs d'école ont réellement le pouvoir de transformer la culture entière de leur établissement.
Ils ont les cartes en main.
Oui, mais ils souffrent d'un besoin critique et urgent d'accompagnement pour apprendre à décoder ce bagage invisible que chaque enseignant apporte avec lui tous les matins.
L'enjeu est donc colossal. Il s'agit de passer d'une simple gestion administrative et froide à une véritable gestion humaine et nuancée, capable d'accueillir toute la complexité des personnalités. C'est un beau résumé. Pour conclure notre émission sur une note qui invite vraiment à la réflexion, j'aimerais soulever un dernier point. Une idée à méditer pour quiconque s'intéresse au fonctionnement profond de nos institutions.
Je vous écoute.
On évalue généralement la réussite scolaire d'une école à l'aune de critères très objectifs et chiffrés. Les notes des élèves, les taux de réussite aux examens nationaux, même la propreté des locaux.
Les fameux indicateurs de performance.
Mais et si ces indicateurs de performance n'étaient, au bout du compte, que le reflet direct et palpable des blessures psychologiques non guéries et non gérées de la personne qui dirige l'établissement?
C'est une perspective renversante.
C'est une pensée volontairement provocatrice, certes, mais elle nous invite à regarder la hiérarchie de n'importe quelle organisation sous un jour totalement nouveau, en cherchant à voir les rouages émotionnels complexes qui sont cachés juste derrière la façade institutionnelle.
Je suis convaincue que c'est une excellente réflexion pour terminer cette analyse aujourd'hui. Regardez au-delà des simples résultats chiffrés pour y percevoir l'humain et tout son bagage émotionnel. C'est une véritable invitation à repenser notre manière d'interagir dans le monde professionnel, quel qu'il soit.